Merci d'être sur Radio Prague. Tout de suite, un bulletin d'information en français présenté par Alexis Rosenzweig. Et on commence ce bulletin avec le vice-premier ministre tchèque en charge de l'économie, Martin Jan, qui a fait remarquer ce mercredi à Paris que son pays permettait aux entreprises européennes d'investir moins loin qu'en Chine et d'y fabriquer à meilleur coût des produits de qualité similaires aux produits français. La République tchèque est un bon moyen de réduire les coûts, d'être plus efficace tout en obtenant la même qualité qu'en France et d'être moins loin que la Chine, a déclaré Martin Jan au siège du patronat français à l'occasion d'une visite de 2 jours en France. Le responsable tchèque a précisé que l'allègement des procédures d'inscription au registre du commerce serait opérationnel fin 2005 et que la nouvelle loi sur les faillites devrait être adoptée en 2007. Le vice-premier ministre tchèque était également à Toulouse mercredi pour voir le nouvel Airbus A380. Mardi, Martin Jan a rencontré le ministre français des Finances Hervé Guémard, ainsi que les représentants de la Banque Société Générale, du groupe aéronautique et de défense européen EADS et du constructeur automobile PSA. Le président de la République, Václav Klaus, a adressé ce mercredi une lettre au juge constitutionnel pour demander si le projet de traité fondamental de l'Union européenne était en accord avec la Constitution tchèque. Le président tchèque a déjà pris plusieurs fois position contre l'adoption de la Constitution européenne, qui ferait selon lui perdre sa souveraineté à son pays. Les principaux partis d'opposition, le Parti civique démocrate et les communistes, sont opposés au texte que soutiennent les partis de l'actuel gouvernement. La branche tchèque de Transparency International a demandé mardi au Premier ministre tchèque Stanislav Gross de s'expliquer sur l'achat de son appartement pragois qui suscite des interrogations dans les médias. Selon les calculs de la presse, les salaires que M. Gross a touchés durant toute sa carrière politique n'auraient pas suffi à financer l'achat de son appartement. Selon Transparency International, l'attitude de M. Gross, qui a seulement déclaré avoir emprunté de l'argent à son oncle et menacé de poursuivre un quotidien du pays, Mlada Frontadnes, cette attitude contribue à la perception d'un taux de corruption élevé dans notre pays. On termine ce bulletin avec la météo. La journée de mercredi, jour de la Sainte Nella, s'annonce partiellement couverte avec des températures maximales entre moins 2 et 2 degrés et des chutes de neige par intermittence. C'est la fin de ce bulletin. Merci à toutes et à tous de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour, merci d'être en notre compagnie pour ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Nous commencerons, une fois n'est pas coutume, avec de l'informatique. Le forum des décideurs publics organisé chaque année par Microsoft se tenait ces mardis et mercredis à Prague. Des représentants de gouvernements du monde entier y participaient, parmi lesquels Eric Woerth, secrétaire d'État français chargé de la réforme de l'État. Radio Prague l'a rencontré. Justice, pour la première fois depuis la chute du régime communiste, un ancien ministre a été condamné à une lourde peine d'emprisonnement suite à une affaire de malversation financière. Dans cette émission, nous parlerons aussi de culture avec la situation des petits cinémas. Une conférence s'est tenue récemment à Prague en présence d'un représentant du Centre français de la cinématographie. Nous évoquerons également le dernier disque de la mezzo-soprano Magdalena Kojena, très bien accueilli par la critique, avant de terminer avec un mot de sport et de handball. La France et la Tchéquie se sont affrontées mardi en Tunisie à l'occasion du championnat du monde. Toute l'équipe de la rédaction française vous souhaite une agréable réception. Le Forum 2005 des décideurs publics, organisé par la société américaine Microsoft, plus gros éditeur de logiciels informatiques au monde, se tenait mardi et mercredi à Prague. Avant l'intervention de son président Bill Gates, plus de 500 représentants de gouvernements et d'entreprises spécialisées dans les technologies de l'information ont pu discuter, entre autres, de l'administration électronique et de l'e-gouvernement, c'est-à-dire de l'usage d'Internet à des fins de services publics. Explication plus concrète avec le secrétaire d'État français chargé de la réforme de l'État, Eric Woerth, présent à la conférence.
L'administration électronique, c'est l'usage d'Internet pour remplir des formalités administratives. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin d'envoyer un courrier, on est en interaction avec une administration par le biais d'Internet et de son ordinateur. Donc c'est assez très très important de le développer, c'est pas évidemment le seul avenir de l'administration, les guichets gardent un avenir, la correspondance aussi, le téléphone aussi, mais l'administration électronique, ça permet de bénéficier d'un service complet. Par exemple, aujourd'hui en France, on peut déclarer ses revenus en ligne, on peut payer ses impôts en ligne, et il y a de plus en plus de nos concitoyens qui le font. Et il y a beaucoup d'exemples comme cela. Ça nécessite d'avoir des systèmes très sûrs, c'est-à-dire que les données que vous avez bien voulu communiquer à une administration ne se retrouvent pas sur la place publique. Ça nécessite aussi que l'administration, quand elle reçoit une donnée ou une information de votre part, elle n'ait plus vous identifier, que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui s'adresse à elle, donc il faut une identification. Et puis ça nécessite aussi que tous les systèmes puissent être compatibles entre eux, parce que quel que soit votre choix, ça doit être compatible. C'est-à-dire que la technique ne doit pas dominer, c'est évidemment l'usage qui doit dominer. Bon, ben, tout ça, ça nécessite beaucoup de travail. Et la France, pour tout vous dire, dans le domaine du développement de l'e-gouvernement, comme on dit, ou de l'e-administration, commence à devenir assez en pointe. On est dans les 7-8e, classés par les grands organismes internationaux. On est devant l'Allemagne, on est devant la Grande-Bretagne. Et je pense que d'ici 2 ans, avec de nouveaux services tels que la carte nationale d'identité électronique, on sera probablement dans la première démocratie en usage d'Internet.
À l'occasion de cette visite, vous avez rencontré le ministre de l'informatique, le ministre tchèque, M. Vladimír Mlynář. Quelle était la nature de vos entretiens?
D'abord, on a fait connaissance, donc on a échangé nos informations sur l'état d'évolution de l'e-administration dans nos pays respectifs. On s'aperçoit que souvent on rencontre les mêmes problèmes, on n'a pas toujours les mêmes solutions. Vous voyez par exemple en France, on est très attentif au fait que on n'est pas un numéro unique d'identification qui vous permette d'une certaine manière d'avoir accès à une sorte de grande base de données. C'est pas notre culture, on souhaite vraiment préserver la vie publique et la vie privée. Donc on fait très attention à cela. Dans d'autres pays, c'est moins le cas. En Suède, c'est moins le cas. En Tchécoslovaquie, ça a l'air d'être moins le cas. En Tchéquie. Ça a l'air d'être moins le cas. En tout cas, il y a beaucoup de points communs. Il y a la sécurité, l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à rendre compatibles des systèmes. Il y a aussi l'ouverture de portails. Vous voyez, avoir une seule porte d'entrée électronique vers l'administration. L'État tchèque l'a fait, l'État français aussi. Il faut qu'on échange aussi sur ce sujet. Donc je pense qu'on a pas mal de sujets d'échange. Le ministre m'a interrogé aussi sur l'utilisation, non pas uniquement de l'électronique, mais aussi de la téléphonie, du téléphone. Nous avons développé en France, depuis, on a fait ça il y a quelques mois, j'ai créé un centre d'appel à la demande du Premier ministre, qui est un centre d'appel qui permet d'entrer en contact par téléphone avec des gens, pas avec des ordinateurs, et d'obtenir des informations sur les principales formalités administratives, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises privées. En France, maintenant, c'est possible. Je crois que le ministre tchèque était très intéressé par ça. Et je crois qu'il doit venir en France au printemps et je l'ai invité à venir échanger et continuer à échanger avec nous.
Une première dans les annales de la justice de la République tchèque. Un ancien ministre vient d'être condamné à une peine de 5 années de détention ferme pour malversation financière. Alain Slivinski.
Ivo Svoboda, ministre des Finances du premier gouvernement social-démocrate, conduit par Miloš Zeman, n'a pas réussi à convaincre la justice de son innocence dans une affaire de fond. Ivo Svoboda avait pourtant un bel avenir devant lui. Il était ministre des Finances, vice-président des sociaux-démocrates, et pouvait aspirer même à la direction du parti, étant un familier du leader social-démocrate Miloš Zeman. Il n'en fut rien. Entre 1996 et 1998, Ivo Svoboda et sa collaboratrice Barbara Snopkova, chargés entre autres des finances du Parti social-démocrate, étaient aussi les administrateurs d'une société en faillite. Liberta, une entreprise qui fabriquait des landaus ou autres moyens de transport pour les plus petits. Une société en faillite qu'ils avaient l'intention de remettre sur pied avec un crédit de plusieurs millions alloué par une banque tchèque. Le problème est apparu quand ce crédit, au lieu d'être utilisé pour le sauvetage de Liberta, disparut dans les caisses de 2 autres sociétés administrées par Ivo Svoboda et sa collaboratrice, 2 sociétés qui, elles aussi, étaient au bord de la faillite. La procédure judiciaire traîne depuis 10 ans, car les accusés ont fait preuve d'une grande ingéniosité. Mauvais état de santé, refus de réception des convocations au tribunal. Néanmoins, Ivo Svoboda et Barbara Snopkova, sa collaboratrice, ont déjà passé dans les 3 mois sous les verrous. Condamnés déjà par la cour départementale, ils ont fait appel. Le tribunal n'a pas reconnu leurs arguments, en premier lieu celui selon lequel, dans cette affaire, on aurait utilisé le droit pénal et non pas le droit administratif. Peut-être, car la République tchèque ne possède pas de tribunal administratif. D'un autre côté, toutes les cours reconnaissent qu'il y a eu détournement de fonds, comme l'explique d'ailleurs le procureur de la Cour supérieure, Václav Lukeš.
V tuto chvíli mám mohu pouze říci jako žalobce, že je pro mě podstatné, že vrchní soud jako soud.
Dans cette phase du procès, je ne peux que confirmer que la Cour supérieure a confirmé le verdict de détournement de fonds prononcé par la Cour de plus basse instance.
V zásadě potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně.
Une affaire à suivre peut-être, car Ivo Svoboda compte faire appel à la Cour suprême. Son argument, de nouveau le fait que les tractations financières ne sont pas du ressort de ce qu'on appelle en France les assises, donc du droit pénal. Une lacune dans le droit tchèque, peut-être, mais détournement de fonds, fraude et malversation financière, il y a eu. Ce dont un ancien ministre des Finances ne devrait pas être accusé, que dire, ni même soupçonné.
L'arrivée des multiplexes sur le marché audiovisuel en Tchéquie a considérablement changé la situation des petits cinémas, dont certains ont fait faillite et d'autres sont menacés de disparition. Une table ronde sur la problématique des petits cinémas a été organisée à Prague dans le cadre des journées du cinéma européen actuellement en cours. Les représentants du cinéma tchèque qui ont participé au débat se sont plaints de la passivité de l'État tchèque qui ne fait rien pour limiter l'expansion des multiplexes et pour aider les petites salles. Par contre, Olivier Walting du Centre national de la cinématographie de France cherchait plutôt les aspects positifs de cette nouvelle situation. Il en a parlé aussi dans un entretien accordé à Václav Richter.
Quels sont les avantages et les inconvénients de petits cinémas ?
Les inconvénients, ce sont sans doute le confort, la qualité, le fait d'avoir souvent un écran unique qui fait qu'on n'a pas une programmation très variée et que donc on prend plus de risques. Les avantages, c'est sans doute leur emplacement, souvent dans les centres-villes, et aussi leur programmation, l'activité, l'animation, comme on dit, de la salle qu'ils peuvent faire, et ce qu'on appelle souvent en français l'identité qu'ils arrivent à donner à la salle, qui fait qu'ils ont un public qui est identifié à cette salle.
Est-ce qu'on peut trouver un mode de coexistence entre les petits cinémas et les grands multiplexes ?
Eh bien, j'espère. En France, dans d'autres pays aussi, on voit qu'il y a des façons de coexister. Les vrais cinémas menacés par les multiplexes, si on regarde l'expérience française, ce ne sont pas les cinémas à réessai, mais plus les cinémas généralistes, les cinémas commerciaux généralistes. Eux ont le plus souffert et beaucoup ont disparu. Donc les cinémas à réessai et les multiplexes, ils peuvent avoir une existence assez complémentaire, une programmation assez complémentaire. Et en France, on n'observe pas de conflits particuliers. Ce qui est important de souligner, c'est que finalement, ça bénéficie à tout le monde, au public qui peut avoir plus de choix entre les films, mais ça bénéficie aussi aux deux salles de cinéma dans la ville, le cinéma réessai et le multiplex. Partout, on observe que le nombre d'entrées dans les salles de cinéma ont augmenté grâce à l'apparition des multiplex, notamment, et que même la salle à réessai a bénéficié de ce mouvement de hausse de la fréquentation, et que donc on peut vivre à deux en concurrence sur un marché qui lui-même va grandir, et que si l'on vit tout seul, si l'on a éliminé tous les concurrents, en fait le marché va rétrécir, va diminuer. Et c'est important que les multiplexes comprennent ça aussi, que les petites salles, il ne faut pas les tuer ou les faire disparaître, parce qu'ils vont eux-mêmes mieux vivre grâce à cette concurrence.
En République tchèque, la situation est bien sûr assez différente encore. Les petites salles sont menacées. Est-ce qu'il y a une possibilité de les soutenir, de les aider, par exemple au niveau européen ?
Alors au niveau européen, oui, il y a un réseau de salles qui s'appelle Europa Cinéma, qui soutient les cinémas indépendants, qui s'engage à faire la promotion et la diffusion des films européens. Et en contrepartie de cet effort et de ce risque pris pour les films européens, les cinémas reçoivent une subvention qui leur permet de s'équiper, de changer l'équipement, de moderniser la salle. Donc ça, c'est un facteur très important. C'est une action qui s'est renforcée tout au long des années et qu'il faut continuer, parce que c'est important d'éviter ce qu'on appelle en français le ghetto culturel, c'est-à-dire que les films européens, les films à réessai ne soient vus que dans des salles qui soient un peu vieilles, pas très bien équipées, pas très confortables. Il faut que le spectateur ait les mêmes conditions de confort s'il va voir un film, on va dire, Hollywood ou un film à réessai. Il n'y a pas de raison qu'on aille voir un film européen et qu'on soit mal assis et qu'on soit bien assis pour un film américain seulement.
Ach, 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 dass ich weiß.
Selon un article de Mario de Roux paru récemment dans le journal Le Monde, le dernier disque de la mezzo-soprano tchèque Magdalena Kožena, intitulé Lamento et lancé par la Deutsche Grammophon, est une pure splendeur. Václav Richter a écouté ce disque pour vous.
De la lumière céleste à la passion terrestre, c'est ainsi qu'on pourrait décrire le parcours qu'un auditeur attentif traverse en écoutant ce disque. C'est aussi cependant un hommage à la famille Bach, qui, pareil à une pieuvre féconde et vivifiante, a transpercé par ses innombrables tentacules toute la musique européenne du XVIIIe siècle. On y trouve non seulement une cantate de Johann Sébastien, le plus grand et le plus célèbre de la famille, mais aussi deux œuvres de ses fils, un lamento de son ancêtre Johann Christoph Bach. La saveur et la passion méditerranéenne y sont apportées par la cantate Languette Anima Mea, l'œuvre de l'italien Francesco Bartolomeo Conti. Le grand Johann Sébastien a recopié cette œuvre pour la jouer à Köthen, ce qui explique pourquoi elle figure sur le disque bien que son auteur n'ait pas eu de lien de parenté avec les Bach. Depuis le début de sa carrière, Magdalena Kožena cherche, et ce n'est pas le moindre de ses mérites, à faire découvrir au public international des œuvres inconnues. Cette fois, elle nous fait entrevoir, avec la complicité de Reinhard Goebel et de son ensemble Musica Antiqua Köln, les richesses de l'immense héritage artistique de la famille qui a exercé une influence fondamentale sur la musique baroque et a lancé dans le monde une quarantaine de compositeurs et musiciens de renom. D'abord mezzo, elle emploie maintenant sa voix suave et colorée aussi dans un registre qui s'étend vers la tessiture de soprano. Elle réussit à exprimer non seulement l'ardeur de la foi et l'extase spirituelle, mais aussi les douceurs, les craintes et les tragédies de l'amour profane dans les œuvres des fils de Johann Sébastien. Dans la cantate « Heureuse paix, félicité de l'âme » de Bach père, sa voix se fond avec les instruments d'époque qui l'accompagnent dans une structure rythmique et harmonique audacieuse qui présage déjà des révolutions musicales des siècles à venir. Les Bach eux-mêmes seraient étonnés et subjugués s'ils avaient la possibilité d'entendre cette voix qui ressuscite leurs œuvres et en fait une musique de notre temps.
Passons pour terminer au sport et au championnat du monde de handball. À l'occasion de la deuxième journée du tour principal, la France a nettement battu la République tchèque 31-26 mardi à Rades en Tunisie. Suite à cette défaite, les Tchèques, derniers du groupe 1, ont perdu tout espoir de qualification pour les demi-finales. De leur côté, avant leur rencontre décisive contre la Slovénie jeudi, les Bleus peuvent envisager la suite de la compétition avec un peu plus d'optimisme. Face aux champions du monde, 97 et 2001, les Tchèques ont été dominés dès l'entame de match. Rapidement menés de 5 buts, ils se sont heurtés à un excellent gardien de but français au meilleur. Résultat, au repos, les Tchèques, contrariés par l'activité française en défense, accusaient déjà 7 buts de retard, 16-9. En seconde mi-temps, si 5 buts inscrits consécutivement ont pu faire croire un instant à un retour au score des Tchèques, ce ne fut qu'un feu de paille, les Français réagissant rapidement avant de finir en roue libre. Une victoire française sans discussion donc, et que ne contestait d'ailleurs pas non plus l'entraîneur tchèque Radislav Trtík, conscient des limites montrées par son équipe. Nous avons eu de gros problèmes en défense, nous n'avons pas été suffisamment agressifs et par conséquent, nous avons manqué de mouvement, il aurait fallu être plus actif. Tous ces éléments expliquent pourquoi nous avons été menés par instant de 9 et même de 10 buts. En un mot, nous avons fait un mauvais match. C'est la fin de ces faits et événements, merci de votre attention, restez en notre compagnie tout de suite. Nos programmes se poursuivent.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Dans le cadre de la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz, Nous revenons aujourd'hui sur le cas spécifique qui représentèrent les Juifs tchèques. Transférés de Térézine en septembre 1943, ils sont regroupés au sein du camp dit des familles. Ils y connaissent des conditions d'existence privilégiées qui ne les empêcheront pas de finir dans les chambres à gaz. Des 15 711 Juifs tchécoslovaques déportés à Auschwitz, on ne comptera que 70 survivants. J'avais cessé de penser et de sentir. C'était la seule aide que la nature nous donnait pour conserver notre équilibre. Zdenka Fontlova, juif tchèque déporté à Auschwitz, évoque le choc du premier contact avec le camp. À peine arrivée, la rampe de sélection et la brutalité des SS ne laissent guère d'illusions sur l'issue du séjour à Auschwitz. Des cheminées crachant des monstres de fumée, c'est ce que de nombreux détenus se rappelleront avoir remarqué dès leur sortie des wagons. Dans cet enfer, la situation des Juifs tchèques fut bien spécifique. Transférés de Térézine en septembre 1943, un premier convoi de 5600 Juifs est regroupé dans le camp dit des familles. Les détenus y bénéficient d'un traitement particulier. Ainsi, parents et enfants ne sont pas séparés. Plus étonnant, les femmes peuvent y accoucher, alors que les autorités du camp ordonnent de noyer tout bébé à sa naissance. Ces conditions privilégiées reflètent, on le verra, l'irrationalité même d'Auschwitz. Elles sont en tout cas notables au vu de la situation des Juifs dans le camp. Dans son livre « Hommes et femmes à Auschwitz », Hermann Langbein explique bien la hiérarchisation existante au sein même des détenus. Allemand vert, détenu de droit commun, polonais ou ukrainien dit « First Deutsche », c'est-à-dire de souche allemande, se voit délégué par les SS des tâches de direction et d'encadrement. Juifs et tziganes sont les plus exposés, situés tout en bas de l'échelle sociale, ou plutôt raciale. Signe visible de la discrimination, les colis, autorisés par une circulaire d'octobre 1942, ne concernent que les Ariens, c'est-à-dire les non-juifs. Îlot surnageant dans un océan de barbarie, le camp des familles d'Auschwitz durera 10 mois. Il devra, ces conditions privilégiées, au rôle actif des sionistes tchèques, et en particulier à l'énergie d'un homme, Freddy Hirsch. Personnage charismatique et énergique, il occupe les fonctions de lager-capot dans le camp des familles. S'étant entouré de jeunes, qui s'occupaient déjà d'éducation à Térézine, il rassemble les 700 enfants du convoi et parvient à leur fournir une meilleure nourriture. Il réussit également à leur faire construire une école, sous prétexte de leur enseigner l'allemand. D'après Anna Hoffmann, détenue du camp des familles, les enfants apprenaient seulement quelques phrases d'allemand en cas d'inspection. Nous leur donnions des leçons de sociologie tchèque ou de judaïsme. En cas de visite, les enfants annonnaient des poésies allemandes aux gardes à vous. Anna Hoffmann évoque une exposition de jouets construits par les enfants et qui suscita l'admiration des SS. Une petite fille avait utilisé des images tirées de Blanche-Neige de Walt Disney. Impressionnés, les Allemands demandèrent eux-mêmes aux enfants d'en faire une représentation. Freddy Hirsch était chargé de l'organisation et de la mise en scène. Le franc succès de la pièce permit une amélioration des conditions de vie pour les mères et les enfants du camp des familles. Celui-ci fut même pourvu d'un jardin d'enfants avec une clôture en bois sans barbelés. Le dossier des Juifs tchèques, transféré le 8 septembre 1943, portait la mention SB 6 mois. Le 8 mars 1944, le délai était arrivé à terme et une mécanique exterminatrice de précision allait se mettre en marche. Des rumeurs ayant filtré, Freddy Hirsch et d'autres détenus furent mis au courant. On fit alors le projet d'incendier Birkenau afin de ralentir la marche des événements. Le mot d'ordre avait été diffusé dans les crématoires, mais rien ne se passa. Freddy Hirsch fit une tentative de suicide. Et le lendemain, il fut conduit aux chambres à gaz, inconscient, avec 3791 autres détenus. On sait que les Allemands lui proposèrent de rester dans le camp des familles avec le deuxième convoi en provenance de Térézine, qui sera à son tour décimé en juillet 1944. L'action de Freddy Hirsch au sein du théâtre des enfants aura permis de sauver environ 70 jeunes placés dans le camp des hommes et finalement rescapés. Dans l'esprit de nombreux détenus, il était nécessaire que le monde entier sache ce qui se passait à Auschwitz. D'autant plus qu'à partir de 1944, les nazis tentent d'éliminer toute trace de la machine d'extermination. Citons l'action de deux juifs tchèques, Valeria Valova et Vera Foltinova, employées à la direction des bâtiments de la Waffen-SS. Elles reproduirent des plans des crématoires et des chambres à gaz et les firent parvenir en Tchécoslovaquie. Elles y ajoutèrent des renseignements sur les expériences du docteur Mengele, évoquant le cas des jumeaux. Alors que les enquêtes récentes pointent des lacunes dans la connaissance de l'Holocauste en République tchèque, souhaitons que l'action de ces deux femmes n'ait pas aidé.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885